Bonjour à tous, Yacouba Ouidraougou avec vous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, au sommaire en cette matinée de ce vendredi 23 août.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination.
Kamala Harris est désormais officiellement la candidate démocrate à la présidentielle américaine du 5 novembre prochain. Elle a accepté sa nomination lors de la clôture de la Convention nationale démocrate à Chicago. Parmi les participants à cette convention démocrate, l'un des principaux leaders de l'opposition congolaise, Martin Fayulu.
Je suis venu ici pour voir d'abord comment la démocratie marche, comment on tient une convention, comment les gens discutent et pour que nous aussi au Congo, qu'on puisse faire la même chose.
Interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. Le régime militaire du Burkina Faso utilise de façon abusive une loi d'urgence afin d'enrôler illégalement des magistrats qui ont lancé des procédures judiciaires à l'encontre des partisans de la junte, dénonce l'ONG Human Rights Watch au Nigeria. Les hommes armés soupçonnés d'être des djihadistes de Boko Haram ont tué 13 fermiers dans le centre du pays. En sport, l'affiche de la finale Costa-Fa est connue davantage dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Kamala Harris est désormais officiellement la candidate démocrate à la présidentielle américaine du 5 novembre prochain. Elle a accepté sa nomination cette nuit lors de la clôture de la Convention nationale démocrate à Chicago. Sur place, la correspondance de notre envoyé spécial, Tilly Diko.
C'était une grande fête dans l'arène du Centre United de Chicago hier soir. Kamala Harris a reçu une longue ovation du public. Elle a commencé son discours en remerciant le président Joe Biden. La vice-présidente a dit être consciente des circonstances qui l'ont amenée à devenir la candidate démocrate à la présidentielle. Puis elle a longuement parlé de l'impact que sa mère a eu dans sa vie et de l'importance de la protection des droits civils. Harris a évoqué son mantra « Kamala Harris for the people ». Kamala Harris au service du peuple, un serment fait lorsqu'elle est devenue procureure. En disant qu'elle se bat au nom de tous, elle a officiellement accepté sa nomination pour la présidentielle et promis d'être la présidente de tous les Américains. Dans un discours qui s'est voulu unificateur et patriotique, Kamala Harris a promis de toujours faire preuve de bon sens et travailler pour le futur des États-Unis. Elle a mis en garde contre un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche qui aurait, selon elle, des conséquences très graves et déclaré que l'Amérique ne va pas retourner en arrière. Kamala Harris a abordé les sujets de l'économie, la justice et la politique étrangère. Au sujet de la guerre à Gaza, elle a affirmé qu'elle soutiendra toujours le droit d'Israël à se défendre et qu'en même temps, elle ferait son possible afin que le peuple palestinien puisse vivre dans la dignité. Un discours qui semble avoir convaincu les démocrates présents ici à Chicago.
Le candidat républicain à la présidence américaine, Donald Trump, s'est lui rendu en Arizona, à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. Il a une fois de plus fustigé l'administration Biden dans sa gestion de la crise migratoire. Les précisions de Lionel Gaïma.
Donald Trump était accompagné de maires endeuillés, du shérif du comté de Cochise et du chef du syndicat de la patrouille frontalière pour faire écho à son message de sécurité aux frontières. Il a utilisé un pan de mur et une pile de poutres d'acier pour établir un contraste visuel entre son approche de la sécurisation de la frontière et celle de son adversaire démocrate Kamala Harris. À ma droite se trouve ce que nous appelons le mur de Trump. C'est le mur qui a été construit par le président Trump, a déclaré Paul Perez, le président du syndicat des gardes frontières, ajoutant « À ma gauche, nous avons ce que nous appelons le mur de Kamala. Il est juste là, à ne rien faire, couché. » Les mères des enfants tués sous l'administration Biden dans des affaires où les suspects étaient des immigrés en situation irrégulière se sont jointes à cette visite de Trump à la frontière sud. Ce que Biden et Kamala ont fait aux familles ici présentes avec moi et à tant d'autres, des milliers et des milliers d'autres, non seulement tués, mais aussi gravement blessés, à un point tel que ne pourront plus jamais mener une vie normale. C'est honteux et c'est diabolique, a déclaré Donald Trump. Cette semaine, Trump s'est rendu en Pennsylvanie, au Michigan et en Caroline du Nord. Ce vendredi, il sera à Las Vegas, dans le Nevada, et à Phoenix, dans l'Arizona.
Le régime militaire du Burkina Faso utilise de façon abusive une loi d'urgence afin d'enrôler illégalement des magistrats qui ont lancé des procédures judiciaires à l'encontre de partisans de la junte. C'est ce que dénonce l'ONG Human Rights Watch. Le 14 août, 6 magistrats se sont présentés à une base militaire de Ouagadougou en réponse à leur notification, a ajouté Human Rights Watch, qui appelle les autorités à immédiatement révoquer ces réquisitions qualifiées par l'intersyndicale des magistrats d'actes d'humiliation et d'intimidation. Hier, des partisans du régime militaire se sont rassemblés à Ouagadougou pour protester contre toute opposition à l'envoi de magistrats au front et exiger une réforme du système judiciaire. Au Nigeria, des hommes armés soupçonnés d'être des djihadistes de Boko Haram ont tué 13 fermiers dans le centre du pays, une région où les djihadistes du Nord-Est s'allient de plus en plus aux criminels locaux. Le point avec Rosine Munezero.
Des hommes armés circulant à moto ont envahi mercredi la communauté d'Angouane Maïjiro dans le district de Chiroro et ont ouvert le feu sur des agriculteurs, dont 3 femmes qui travaillaient dans une ferme. Une source sécuritaire et un employé de l'ONU travaillant dans la région ont affirmé que 13 personnes avaient été tuées dans l'attaque qu'ils attribuent aux djihadistes de Boko Haram. En avril, Boko Haram a tué 2 soldats ainsi que des membres de milices d'autodéfense qui protégeaient le village d'Alawa, conduisant les militaires à évacuer leurs troupes. Craignant de nouvelles attaques, les habitants ont fui Alawa. Les bandits ont alors pris le contrôle du village et ont occupé les maisons et les terres agricoles. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis des années terrorisés par des bandes criminelles, appelées bandits par les habitants, qui attaquent les villages, tuent et enlèvent les résidents et brûlent les maisons après les avoir pillés. Mais les djihadistes du nord-est du pays le plus peuplé d'Afrique ont récemment noué des liens plus étroits avec les bandits de l'État du Niger, où ils ont établi une forte présence, selon des responsables et des analystes.
L'ONU a annoncé l'entrée d'un convoi d'aide humanitaire mardi au Soudan via le point de passage frontalier d'Adré entre le Tchad et le Darfour. Ce corridor a rouvert pour 3 mois après 6 mois de fermeture. Mohamed Oumfa.
Plus d'une douzaine de camions d'aide, dont plusieurs du PAM, Programme alimentaire mondial, et de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, sont entrés au Darfour depuis le Tchad via le point de passage frontalier d'Adré, a salué lors d'un point de presse mercredi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric. Les camions du PAM ont ainsi envoyé du sorgho, des légumineuses, de l'huile et du riz, qui devraient bénéficier à quelques 13 000 personnes menacées de famine dans la région de Kérénik, dans l'ouest du Darfour, tandis que ceux de l'OIM étaient destinés à quelques 12 000 personnes, a affirmé le porte-parole. La réouverture du passage d'Adré est crucial pour les efforts visant à empêcher la famine de s'étendre à tout le Soudan et il doit désormais rester ouvert, a déclaré mercredi dans un communiqué la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain. Le gouvernement soudanais a précisé que le passage d'Adré serait ouvert pour les 3 prochains mois, mais Mme McCain a appelé à l'ouverture d'autres points de passage frontaliers et à la création de couloirs humanitaires afin d'intensifier l'acheminement de l'aide. En raison de la guerre entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide, plus de 25 millions de personnes sont actuellement en situation de faim aiguë, selon l'ONU.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, le président français Emmanuel Macron réunit ce vendredi quelques-unes des grandes forces politiques françaises, sa première initiative depuis la trêve des Jeux Olympiques pour doter le pays d'un gouvernement. Le nouveau Front populaire, qui a créé la surprise en conquérant 193 députés, défend sa candidate au poste de Premier ministre, la haute fonctionnaire Lucie Castet, 37 ans, annoncée présente à l'Élysée. Les chefs des services de renseignement israéliens, David Barnea et Ronen Bar, sont au Caire, où ils négocient pour faire progresser un accord pour libérer les otages, a indiqué le porte-parole du Premier ministre Benjamin Netanyahou Omer d'Austrie, l'Égypte et les États-Unis ainsi que le Qatar mènent depuis des mois une médiation en vue de faire aboutir un accord de trêve dans la guerre à Gaza. D'Austrie n'a pas précisé si Washington et Doha étaient représentés aux discussions du Caire, mais selon des médias israéliens, les Américains sont présents. La Corée du Nord a qualifié d'acte imprudent et provoquant la vente par les Américains d'hélicoptères Apache à la Corée du Sud, affirmant qu'elle y répondrait par un renforcement de son propre arsenal. Les États-Unis ont annoncé lundi avoir approuvé la vente de 36 hélicoptères d'attaque Apache et des missiles à la Corée du Sud pour un total d'environ 3,5 milliards de dollars. Selon Washington, cette vente doit permettre d'améliorer les capacités de la Corée du Sud à faire face aux menaces actuelles et futures. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
À Madagascar, les importations de riz ont chuté de 43% grâce à l'amélioration de la production rizicole locale. Le riz est la principale denrée de base de la population de la Grande Île, mais l'agence Ecofine précise que le pays, troisième producteur africain de riz, dépend encore à hauteur de 10% des importations pour couvrir l'intégralité de ses besoins. L'inflation est en hausse au Mali, au Niger et au Togo, selon les chiffres de juin 2024 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Financial Afrique précise que l'augmentation des prix des produits alimentaires est toutefois atténuée par la décélération constatée dans les transports et les restaurants et hôtels. Ici aux États-Unis, l'ancien président et candidat à la présidentielle 2024, Donald Trump, a annoncé jeudi le lancement prochain d'une plateforme de crypto-monnaie, la présentant comme une alternative aux offres des grandes banques et des institutions financières majeures. Alors qu'il avait qualifié les crypto-monnaies d'arnaque durant sa présidence, Donald Trump prend ainsi le contre-pied du gouvernement Biden, considéré comme partisan d'une régulation du secteur.
Pour la page sportive de ce journal, retrouvons Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yacouba.
On commence bien évidemment par l'Afrique. On connaît désormais l'affiche de la finale COSAFA pour la Ligue des champions féminine.
Tout à fait, elle opposera Gaborone United à University of Western Cape. Les deux formations ont validé leur billet pour l'ultime rencontre hier jeudi en s'imposant respectivement 1-0 contre Heritage Queens et surtout 6-0 face à Young Buffaloes, ce qui constitue un record d'obus inscrit par la même équipe. La finale promet de tenir toutes ses promesses entre deux formations constituées d'énormes qualités comme la patience, une vertu que les Botswanaises de Gaborone United ont su mettre à profit.
Toujours dans cette compétition de la Ligue des champions féminines, côté Unifac, le tout-puissant Mazembe prend seul la tête.
Eh oui, les Congolaises du TP Mazembe sont en bonne voie pour se qualifier pour la Ligue des champions féminines de la CAF. Sous les acclamations de leurs supporters, les joueuses congolaises ont pris l'ascendant dès le début de cette rencontre. L'équipe dirigée par Lamia Bourmedi a battu 4-0 les équipes guinéennes de l'Atlético de Malabo. Cette victoire permet aux Congolaises de prendre la tête du classement de cette compétition organisée par l'UNEFAC. Lors de l'autre rencontre de la journée, le CCM Diable Noir et la Lekie Football Fille ont terminé sur un score nul et vierge de 0 but partout. Jeudi, la zone UNEFAC connaîtra l'identité de son représentant à la Ligue des champions féminines de la CAF. Toutes les rencontres se joueront simultanément. Le TP Mazembe croisera le fer avec la Lekie Football Fille, alors que le CSM Diable Noir affrontera l'Atlético de Malabo.
Chez les hommes, mais toujours en Ligue des champions, l'entraîneur Miguel Angel Gammondi dévoile les ambitions de Young Africans, le club tanzanien.
Les Young Africans Yanga se préparent pour le match retour de leur premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF Total Energy 2024-2025 contre Vitalo du Burundi qui aura lieu demain samedi. L'équipe semble aborder cette rencontre avec confiance. Forte de sa victoire écrasante 4-0 lors du match aller, Yanga vise à se qualifier pour le tour suivant et à surpasser ses performances de la saison dernière en quart de finale.
En France, Luis Enrique assure que le PSG ne fera pas de folie en fin de mercato.
Le Paris Saint-Germain ne fera pas de dépenses exagérées d'ici la fin du mercato le 30 août, a déclaré l'entraîneur Luis Enrique ce jeudi, indiquant que le club n'avait aucune urgence ou priorité, tout en demeurant attentif aux opportunités. Luis Enrique a souligné que le PSG souhaite également se séparer des joueurs qui ne font plus partie des plans du club, en allusion à des joueurs comme le milieu défensif Manuel Ugarte ou le défenseur Nordi Mukiele.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. En marge de la Convention démocrate à Chicago, les délégations africaines participent à des séminaires. Parmi les participants, l'un des principaux leaders de l'opposition congolaise, Martin Fayulu, il explique l'importance d'être à la Convention démocrate et les enseignements tirés pour les jeunes démocraties africaines. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Dilidiko et Trésor Matondo.
Venu à Chicago pour prendre part à la convention démocrate, l'opposant congolais Martin Fayulu a expliqué pourquoi il est important pour lui et d'autres pays africains de participer à cet événement.
Je suis venu ici pour voir d'abord comment la démocratie marche, comment on tient une convention, comment les gens discutent et pour que nous aussi au Congo, qu'on puisse faire la même chose. Peut-être pas la même chose exactement, mais au moins, les bases de la démocratie sont les mêmes. Adapter ce qu'on peut adapter, bien sûr, selon notre contexte. Je suis venu ici surtout pour dire aux Américains, qui sont les champions de la démocratie, au Parti démocrate, que la démocratie doit être la même partout dans le monde, et non ce qu'on appelle le double standard. Donc, si ici, ils disent que un monsieur, une dame, un vote, donc une fois, et ça doit être la même chose. Et que c'est lui qui a gagné, c'est lui qui doit réellement être proclamé vainqueur. Et non de faire comme chez nous, vous avez les élections, il y a un vainqueur, on proclame quelqu'un d'autre, mais que eux, les Américains, les Occidentaux, disent que, bon, voilà, nous avons pris note.
Martin Fayulu a ajouté qu'il attend des États-Unis plus d'aide pour renforcer les institutions et la démocratie et un échange accru de bons procédés. Au sujet de l'état de la démocratie congolaise, l'opposant n'a pas mâché ses mots.
Au Congo, c'est ça le problème. Le pays souffre. Nous souffrons tous. Nos institutions ne sont pas démocratiques. Nos institutions ne sont pas des institutions mises en place par la population. Et donc, pour cela, il faudrait que nous nous aidions nous-mêmes, mais aussi que le monde entier puisse aider nos pays.
Le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 estime que pour changer la situation, il faut la participation de tous. Il a dit repartir avec beaucoup d'enseignements.
Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut faire participer tout le monde. La démocratie, c'est que qu'est-ce que le peuple veut, qu'est-ce que chaque citoyen veut, et les partis communiquent à ses citoyens son programme, ce qu'il veut faire pour demander son suffrage. J'ai appris beaucoup de choses dans les techniques de sondage. J'ai vu comment ils font des sondages ici, des bons sondages, pas des sondages truqués, dans l'interaction avec les médias, j'ai vu, et donc j'ai appris beaucoup de choses.
L'opposant a fait savoir que dès son retour, il va continuer à parler pour défendre la démocratie et s'organiser afin que toutes les parties prenantes congolaises politiques et la société civile se réunissent pour parler de l'intégrité territoriale de la RDC et trouver des solutions pour atteindre, selon lui, la légitimité du pouvoir.
Au Gabon, le 30 août marquera le premier anniversaire des militaires au pouvoir, un coup d'État contre le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba sans effusion de sang. mais qui s'est soldée par une vague d'arrestations des proches de l'ancien régime. Depuis lors, le nouveau pouvoir a donné des gages d'ouverture en organisant un dialogue national inclusif. Des assises marquées par des recommandations qui doivent être traduites en texte de loi lors du référendum prévu cette fin d'année. Mais que reste-t-il des engagements pris par le CTRI, notamment le transfert du pouvoir aux civils à l'issue de 2 ans de transition? Élément des réponses dans ce reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangzi.
Un an après avoir renversé Ali Bongo Ondimba, la junta de la transition reste un sujet de préoccupation à Libreville. Cadre d'entreprise, Firmé pense que le pouvoir militaire ne respecte plus ses promesses de renouveau.
Nous constatons, faut déplorer qu'ils ne s'appesantissent pas sur le mobile de leur appellation, c'est-à-dire que comité de transition pour la restauration des institutions, il y a encore des dérives que nous constatons dans nos institutions, et c'est dommage qu'après un an, nous soyons encore à retrouver les mêmes comportements.
Parmi les motifs d'inquiétude des frondeurs de l'actuel pouvoir, la restriction des critères d'éligibilité à la future présidentielle combinée à la suspension des partis politiques. Ces mesures, contenues dans les recommandations du dialogue national, sont plutôt saluées par Christopher, fervent soutien du président Oligui Nguema.
Moi je pense qu'il a très bien agi parce qu'il a juste suspendu le parti politique, mais ceux qui ont fait, les membres du parti politique, je crois qu'ils sont même d'attache encore dans le gouvernement actuel, ont déjà quelque chose à accomplir pour pouvoir se racheter.
3 mois après les assises post-coup d'État, la mise en œuvre des réformes institutionnelles piétine. Pour Jean Martin, tout ceci n'aura aucun péril sur l'agenda de la transition.
Derrière, il y a des efforts qui sont faits pour la jeunesse, sur le plan de vue de l'emploi, pour nos parents retraités qui aujourd'hui ne revendiquent plus leur pension, qui passe normalement chaque mois.
Entre réception onéreuse, lancement des chantiers et travaux d'Hercule, diabolisation du régime déchu, pour beaucoup, presque le terrorisme n'a pas fini de surprendre.
Si on part sur la base que s'ils étaient pour la restitution des institutions, on voit qu'ils s'attaquent à beaucoup de nouveaux chantiers. Bon, c'est peut-être pas pour ça qu'ils avaient commencé leur boulot.
Libération de plusieurs prisonniers de droits communs et politiques, formation d'un gouvernement composé de militaires et civils. Au lendemain de sa prise de pouvoir, le général-président Oligui Nguema avait pourtant envoyé des gages d'apaisement à la communauté internationale, des signes d'ouverture à l'origine de la levée des sanctions d'instances régionales contre le Gabon. Aujourd'hui, les Poutus sont coincés entre les demandes populaires de justice et la nécessité de préserver une image de respectabilité. Mais la crainte d'une confiscation du pouvoir par le CTRI l'emporte sur le fureux du coup d'État du 30 août 2023. Ismaël Obiangzi pour VO Afrique, Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ovoué FM à Libreville.
Direction Kampala, la capitale de l'Ouganda, où les rues sont envahies par les motos de transport des passagers et des marchandises, appelées Boda Boda pour de nombreux jeunes hommes. Ils constituent un moyen de subsistance dans une ville où les emplois sont rares. Cependant, avec le non-respect généralisé des règles de circulation, la sécurité routière reste un défi majeur. Le récit est de Nanit Talani.
Pour les conducteurs de Boda Boda, ces motos sont bien plus qu'un simple véhicule. Elles sont un moyen de survie dans un environnement économique difficile.
Nous faisons cela parce que nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à faire. Même nous tous ici, même d'autres personnes, ils ont leur diplôme, ils ont leur maîtrise, mais ils sont juste ici. Ils n'ont rien à faire, mon frère.
Le non-respect des règles de sécurité routière est l'un des principaux problèmes associés au Boda Boda. Face à la prolifération incontrôlée de ces moyens de transport, les autorités cherchent à instaurer des réglementations pour réduire leur nombre et organiser le secteur.
Notre problème n'est pas le Boda Boda. Le problème est la réglementation et une réglementation qui s'applique à tout le monde. De la même manière, lorsque vous avez une certaine catégorie de personnes qui essayent de ne pas respecter la loi, qui conduisent du mauvais côté de la route, qui ne respectent pas le code de la route, qui grillent les feux de signalisation, vous allez avoir un problème.
Toutefois, ces tentatives se heurtent à la résistance des conducteurs qui voient dans ces motos leur unique opportunité de gagner leur vie. Innocent Awita, un conducteur qui a quitté l'école en 2008, explique que c'est la pression pour payer les frais journaliers qui pousse de nombreux conducteurs à enfreindre les règles de la route.
Ce qui cause les accidents, c'est la police. Quand vous arrivez au feu rouge, quelqu'un vient prendre vos clés. C'est pourquoi nous enfreignons les règles. Parfois, d'autres personnes empruntent un seul chemin pour être en sécurité et garder leur argent, le peu d'argent qu'ils ont. Mais s'ils les arrêtent, l'argent qu'ils ont gagné, 20 ou 30 dollars, ils le prêtent. C'est pourquoi les gens commencent à s'enfuir loin de la police et des feux de signalisation. Et parfois la route n'est pas bonne.
Le phénomène Boda Boda remonte aux années 1970, lorsque les motos sont devenues un moyen rapide et facile de transporter des marchandises de contrebande à la frontière entre l'Ouganda et le Kenya pendant les périodes d'instabilité politique. Malgré les défis, les Boda Boda restent un symbole de liberté et d'opportunité économique à Kampala. Avec un prix d'achat d'environ 1500 dollars, ces motos offrent une chance à beaucoup de gagner leur vie dans un marché du travail difficile, faisant d'elles une partie intégrante de la culture dynamique, mais chaotique, de la ville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
À Nairobi, dans la capitale kényane, un nouveau restaurant fait parler de lui, non seulement pour ses plats, mais aussi pour son personnel. Des robots qui servent les plats sont la principale attraction des clients qui se pressent au Robot Café de Nairobi. Le reportage de Juma Majanga, récit Michel Joseph.
C'est l'heure du déjeuner au Robot Café dans la banlieue de Kilele-Choua, à Nairobi, et une serveuse inhabituelle suscite l'enthousiasme.
Thank you, Nadia.
Nadia est l'un des trois robots serveurs incorporés ici pour améliorer la prestation de service. Une première en Afrique de l'Est.
Vous leur assignez des tâches le matin comme à des serveurs normaux. Vous leur dites à quelle table un robot particulier est censé se rendre et ce qu'il est censé y faire. Car, par exemple, il ne se contente pas de servir. Il chante des anniversaires. Par exemple, si vous réservez une table et que vous faites votre anniversaire, le robot vous livrera votre gâteau avec le message et tout le reste. Et vous chantera aussi un joyeux anniversaire sur fond de serveuse.
L'utilisation de la technologie robotique dans le secteur de la restauration n'est pas nouvelle. Des restaurants dotés de serveurs robotisés ont ouvert leurs portes aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays. Mais le concept est nouveau en Afrique. Depuis son ouverture à Nairobi il y a 2 mois, le personnel du Robot Café affirme que l'accueil est bon, les robots étant l'attraction de clients comme Birouk Abetu, qui est ici aujourd'hui avec sa famille pour le déjeuner.
J'étais très heureux de montrer cela à mes enfants en Afrique, dans notre propre jardin. Alors oui, c'était très bien. On peut voir que ça a besoin d'un peu de développement, mais c'est vraiment sympa la façon dont les robots prennent la nourriture, ils viennent et vous servent. Lors de ma prochaine visite, j'aimerais que les robots soient plus interactifs, qu'ils prennent vos commandes, qu'ils vous apportent votre nourriture. Mais c'est un très bon premier pas.
Selon les données du gouvernement, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est l'une des principales sources d'emploi au Kenya. L'introduction de robots dans le secteur fait craindre que les machines ne mettent les gens au chômage. Toutefois, des experts du secteur comme Edith Odwang estiment qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer car la technologie servira simplement d'outil pour améliorer l'efficacité et la qualité de la prestation de service.
Je ne pense vraiment pas qu'elle puisse éliminer progressivement l'ensemble du travail humain, mais elle sera incorporée comme nous avons incorporé les autres technologies auparavant et les avons utilisées pour améliorer notre labeur humain et travailler ensemble.
Odwang conseille aux écoles kenyanes d'intégrer la formation aux technologies dans leur programme d'enseignement de l'hôtellerie afin de se préparer à ce changement.
If we keep training people the traditional way,
si nous continuons à former les gens de manière traditionnelle et qu'au moment où ils entrent dans l'industrie, la technologie a déjà progressé d'un cran, cela devient déjà effrayant pour eux et il leur est difficile de l'adopter.
Selon les experts, l'ère des restaurants automatisés a enfin commencé en Afrique et les convives doivent s'attendre à une plus grande intégration des robots dans leur expérience culinaire.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Yacouba Ouédraogo au micro, réalisation Lionel Gagnema. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.